c'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise à quel point la masturbation est une pratique extrêmement courante chez les femmes aînées. Mais les hommes hétérosexuels ne vivent pas d'agisme, bien au contraire. J'ai été surprise aussi de voir le nombre de personnes et de femmes aînées qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur jeunesse.
Bonjour, bienvenue dans Sexologiquement Vôtre, le podcast de l'ATSF. L'ATSF, c'est l'association qui promeut la thérapie sexofonctionnelle, qui est un type d'approche sexologique. Dans ce podcast, nous interviewons des professionnels de tout horizon, dont la pratique se rattache au domaine de la santé sexuelle. L'objectif du podcast, aider les sexothérapeutes, les sexologues et les autres professionnels de santé à maintenir à jour leurs connaissances pour accompagner toujours mieux les personnes qui souffrent de troubles sexuels. Je suis Audrey et aujourd'hui je reçois Isabelle Valac depuis le Québec. Isabelle, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes anthropologue et professeure agrégée du département de sexologie de l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Exactement.
Comme Félix Dussault que j'ai reçu dans le podcast le mois dernier, en fait, il se trouve aussi à l'UQAM avec vous et on l'avait vu sur les sexualités plurielles. Avec vous aujourd'hui, on va se tourner vers la sexualité de nos aînés. Et je voulais savoir déjà, qu'est-ce que vous enseignez au département de sexologie, en fait?
J'enseigne justement des cours qui sont liés à la question du vieillissement. Donc, j'enseigne un cours, on a un certificat en études critiques de sexualité. Puis là, j'enseigne un cours sur sexualité, genre et vieillissement. Puis, j'enseigne aussi un cours pour le baccalauréat, qui est l'équivalent de la licence en France. Au fond, la sexualité de l'adulte, de l'âge moyen à la fin de vie. Voilà, donc c'est ce que j'enseigne principalement. J'ai déjà enseigné un séminaire sur les questions de sexualité, deuil et mort, il y a déjà quelques années. Et puis, par le passé, il y a très longtemps, j'ai enseigné des cours sur les questions de culture, sexualité, ethnicité. Mais maintenant, je suis vraiment concentrée exclusivement sur les questions reliées au vieillissement.
Plutôt liées au vieillissement. Et moi, je vous ai découverte grâce au livre « Sexualité et conjugalité en contexte de vieillissement » dont vous êtes une des autrices, hein. Il y a plusieurs autrices avec vous. Et...
En fait, je suis la première co-directrice de l'ouvrage. Donc, on est trois directrices de cet ouvrage collectif qui, au fond, visait avant tout à diffuser des résultats de recherche principalement menés au Québec. Donc, c'est des recherches empiriques. Alors, voilà, on est finalement pas très nombreuses à explorer cette question-là au Québec. Alors, c'est un ouvrage un peu précurseur, si on peut dire. Puis, on espère que ça fera des petits, qu'il y en aura peut-être d'autres, ou que ça va inspirer d'autres personnes à travailler sur ces questions-là autour de la vie intime des personnes aînées.
Dites-moi, quelles sont les principales rumeurs, ou en tout cas préjugés, que vos études ont aidé à démonter, notamment?
Je dirais que le principal préjugé, ça concerne de façon générale l'idée que les personnes âgées seraient asexuelles, qu'elles seraient désintéressées de la sexualité, qu'elles ne seraient pas actives sexuellement, qu'elles seraient ou alors peu actives. Il y a aussi des préjugés quant aux raisons qui pourraient expliquer cette forme d'asexualité. Il y a des préjugés sur comment ça se manifeste, il y a des préjugés aussi sur le type de relation dans lequel ça peut s'inscrire, une sexualité à un âge avancé. Donc c'est sûr qu'il y a, si on part sur la question de l'origine de ce préjugé central là, sur l'idée d'une asexualité, on pourrait dire que d'abord, il y a la catégorisation des personnes âgées comme étant à part dans la société. C'est avant tout fondé quand même sur l'agisme, les préjugés, les stéréotypes, la discrimination qu'il peut y avoir envers les personnes âgées.
Commence d'ailleurs les personnes, nos aînés, pour vous, c'est à partir de 65 ans, 60 ans, ce serait quoi?
Alors, c'est variable, dans le sens où les femmes vont souvent subir ce que moi j'appellerais cette désexualisation, donc ce processus où on a tendance à attribuer aux personnes vieillissantes une étiquette de personnes asexuelles. Les femmes, ça commence plus tôt. Souvent, dès la ménopause, ça peut commencer déjà un petit peu à arriver.
Bon, on le voit dans le milieu du cinéma, hein, certaines actrices qui sont...
Ouais, mais le milieu du cinéma est un milieu à part. Je pense que dans la vraie vie, dans la société en général, c'est ça. Je pense que ça touche beaucoup les femmes. Donc, à un âge en tout cas plus précoce que les hommes, ça dépend des personnes. Le vieillissement, c'est quelque chose de... Bon, vous savez, peut-être, je ne sais plus si vous l'avez mentionné, mais moi, je suis anthropologue de formation. Donc, j'allais dire, le vieillissement, c'est quelque chose qui est avant tout construit socialement, culturellement. Donc, selon les sociétés, ça commence à un âge plus ou moins jeune. On peut parler de 60 ans, on peut parler de 65 ans. En même temps, souvent, l'idée de considérer une personne comme étant âgée, on se base sur les apparences. Donc, quelqu'un qui aura l'air plus jeune, même si elle a 65, 70 ans, on va peut-être pas la considérer comme une aînée. Il pourrait y avoir des personnes plus jeunes qui auront l'air un peu plus âgées ou qui auront des problèmes de santé, puis elles, on va les mettre dans la catégorie d'aînés. Donc, pour répondre à cette question-là. Puis, bon, si on revient à la question de ce préjugé concernant une supposée asexualité des personnes vieillissantes âgées, c'est beaucoup lié à nos associations. Qu'est-ce qu'on associe à la sexualité? On a tendance à associer la jeunesse, la reproduction, la beauté. C'est sûr que les personnes aînées, par exemple, et en particulier les femmes aînées, vont pas correspondre aux standards de beauté, aux idéaux de beauté prédominants. Il y a beaucoup plus de pression d'ailleurs envers les femmes aînées à avoir l'air éternellement jeune, avoir une apparence soignée, séduisante, tardivement. Puis si, au fond, si elles n'y arrivent pas, ben ça contribue à faire qu'elles deviennent un peu invisibles, en fait. On considère qu'elles sont moins attirantes, donc ça contribue à les désexualiser. Après, il y a toute la question de la santé, évidemment, dès qu'il y a une hypernomie, des problèmes de santé, les gens sont vus comme moins sexuels. Et puis, cette question-là de la procréation, c'est vrai que même si on est plus dans une société où l'objectif premier de la sexualité, c'est de faire des enfants, il n'en demeure pas moins que c'est considéré comme un but peut-être un peu plus légitime ou ce qui est un peu plus la norme. Puis, à partir du moment où les personnes ne sont plus en âge de procréer, ben déjà, ça contribue à les sortir un peu de cette image de personnes qui sont actives sexuellement. Donc, ça, c'est un peu les causes. Il y en a d'autres, mais disons que ça fait un petit peu le tour peut-être des principales. Il y a aussi l'association avec certains rôles sociaux comme le fait de devenir grand-parent. Souvent, on a moins tendance à imaginer que des grands-parents peuvent être des personnes très actives sexuellement.
Sexuellement actives, oui. J'étais ravie de lire une étude qui mettait vraiment à sa place les populations gays et lesbiennes, mais vous parliez de la difficulté à trouver ces populations-là. Et en fait, notamment lorsque vous êtes dans la méthodologie, hein, je disais que ça pouvait être délicat de les trouver.
Mais en fait, paradoxalement, ça dépend. C'est-à-dire que moi, j'ai eu deux projets parallèles il y a quelques années. Un qui s'intéressait plutôt à certains aspects de la sexualité des hommes âgés hétérosexuels et gays. Puis une autre étude qui portait plutôt sur la vie intime, le rapport à l'apparence des femmes aînées hétérosexuelles et lesbiennes. Puis autant ça a été finalement plus facile dans l'étude sur les hommes aînés. Ça a été plus facile de recruter des hommes gays que des hommes hétérosexuels. Là, c'était une population à partir de 65 ans. Donc, les hommes gays, finalement, étaient beaucoup plus prêts et intéressés à partager leur expérience, à se livrer, à raconter leur histoire. Par contre, dans le projet sur les femmes, ça a été extrêmement difficile de trouver des femmes lesbiennes qui étaient prêtes à témoigner. Qui était prête à participer à une entrevue. Ça a été vraiment très difficile. Puis à l'heure actuelle, je mène un nouveau projet en fait auprès qui est encore plus spécifiquement sur la question de la sexualité des femmes aînées, avec une approche particulière. Je pourrais développer si ça vous intéresse plus tard, mais une approche qu'on appelle le photo-voix, où on fait prendre des photos aux personnes elles-mêmes pour qu'elles qui sert en fait de point de départ pour partager leur expérience. Mais bref, pour ce projet-là, on a eu à nouveau beaucoup plus de difficultés à recruter des participantes aînées lesbiennes. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, il y a comme une double, au fond, une double stigmatisation et une double invisibilité finalement des femmes aînées qui sont lesbiennes. Je pense qu'elles ont été encore plus marginalisées finalement et peut-être encore plus stigmatisées que les hommes gays. Donc, en tout cas, au Québec, j'avoue que je suis moins au courant de...
Oui, parce que je ne connais pas forcément l'histoire de l'homosexualité au Québec non plus. Mais c'est vrai que du coup, si on est sur des personnes aînées, on est sur la sexualité d'il y a 40 ans, quoi, à peu près. Voire 40, 50 ou 60 ans en arrière, pour le début de leur découverte de leur homosexualité.
Oui,
tout à fait. Donc, peut-être effectivement
oui.
que...
Oui, oui. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'au Québec, le fait d'avoir des relations avec quelqu'un de même genre était... Enfin, je veux dire, l'homosexualité a été pendant longtemps à la fois pathologisée, donc c'était vraiment considéré comme une maladie. Ça a été criminalisé pendant très longtemps. Et puis, c'était stigmatisé dans la société. Ce qu'il y a de particulier au Québec, qui est peut-être différent de la France, c'est l'emprise de le poids de l'Église, en fait. L'emprise de l'Église catholique sur la société jusqu'à la période de la Révolution tranquille, donc dans les années, la fin des années 60. Donc, c'est sûr que ça a marqué toute une génération de personnes plus âgées qui, au fond, ont vraiment dû vivre leur sexualité et leur homosexualité dans le silence, en étant vraiment en se cachant, et qui ont tendance, comme on dit, un peu à retourner dans le placard, par exemple, quand elles vont dans des résidences pour personnes âgées ou des ce qu'on appelle ici les CHSLD, donc les centres d'hébergement et de soins de longue durée, qui ressemblent un peu aux EHPAD en France. Donc, c'est des personnes qui peuvent être vraiment très mal à l'aise, en fait, en raison des expériences de discrimination, de stigmatisation qu'elles ont pu vivre dans le système de santé notamment. Elles peuvent être très craintives à l'idée de dévoiler leur orientation sexuelle en étant plus âgées, et encore plus de vivre ouvertement finalement leur vie conjugale ou relationnelle, sexuelle, dans ces milieux-là, parce qu'elles ont vraiment peur d'être à nouveau
stigmatisée. Effectivement. Là, c'est lié à l'histoire effectivement du pays, avec, donc vous me disiez, la présence de l'Église peut-être plus forte qu'en France.
Oui.
Pendant plusieurs années.
Oh oui, non, tout à fait, tout à fait.
J'ai aimé un passage du livre, alors sur les critères de sélection et d'attractivité de nos aînées québécoises. Oh. Alors moi, j'ai beaucoup aimé la phrase de Francine qui vous dit qu'en vieillissant, on voit plus avec les yeux du cœur. Alors j'ai trouvé ça magnifique, ça mériterait le titre d'un livre ou quelque chose comme ça, je trouve ça sublime. Et je voulais vous savoir quels sont les critères... des choix de partenaires d'une personne au-delà de 65 ans, du coup.
Alors, pour les femmes, parce que je ne pourrais pas vous répondre pour les hommes, ça c'était une étude seulement sur les femmes. Mais en fait, alors c'est intéressant de voir que c'est la phrase qui vous a interpellée, parce que oui, c'est beau, mais c'est aussi ce à quoi on s'attend, au fond, des personnes âgées. Puis, moi, dans cette étude-là, ce qui m'a frappée, c'est que ce n'était pas du tout toujours le cas. Puis, c'était un petit peu mon objectif aussi de le faire ressortir, c'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que tout ce qui est relationnel, partage de valeurs communes, complicité, c'est des éléments qui peuvent être importants. Mais c'est pas uniquement ça qui va faire que les femmes vont être attirées ou vont choisir ou en tout cas rechercher certains profils de partenaires. Donc c'est ça, c'était une étude qui était faite auprès de femmes à la fois hétérosexuelles et lesbiennes, auprès de 25 femmes de 65 ans et plus. Puis je dirais que pour moi, ce qui était inattendu peut-être, c'était de voir à quel point les questions liées à l'apparence, ça pouvait être très important. Les critères liés à l'apparence, donc les questions de beauté. Après, il y avait des enjeux aussi autour des associations avec le genre, dans le sens où, par exemple, les femmes hétérosexuelles avaient certains critères en tête qui pouvaient pour elle est associée à la masculinité. Par exemple, des hommes qui pouvaient être grands, des hommes qui pouvaient avoir, je sais pas moi, de la barbe.
Des grandes mains, de la barbe. Oui, j'ai vu des critères de pilosité masculiniste. Oui. Et puis, à l'inverse, de la féminité recherchée
Par les femmes lesbiennes, comme les rencontres. Donc, ça jouait beaucoup la question de la présentation de soi, que les personnes soient.
C'est ça. J'ai lu qu'elle mettait plus de critères au charme et à la comment au soin que dégageait la personne et au fait d'être soignée, d'être propre, d'avoir une hygiène irréprochable, etc. Beaucoup plus que finalement sur des critères vraiment fins de beauté.
Oui. Mais la question de la beauté était quand même ce qui ressortait un petit peu, enfin ça ressortait beaucoup. Mais c'est sûr que la question du charme était le regard, la sensualité, c'était des éléments aussi qui étaient certainement vraiment importants. Après, comme je disais, il y avait aussi tout la question du partage, la recherche de certains traits de personnalité, du partage d'intérêts communs, de valeurs. Ça aussi, c'était des éléments qui pouvaient rentrer en ligne de compte. C'est ça. Donc, disons qu'il y a un équilibre entre des éléments qui sont plus physiques, au fond, liés à l'apparence, au charme, à la sensualité, par rapport à des critères qui seraient plus autour d'une façon d'être, finalement. Puis, il y a la question aussi de la santé, de l'énergie, de l'âge aussi. Puis là, on voyait aussi une différence, par exemple, entre les femmes hétérosexuelles qui allaient rechercher des partenaires qui étaient peut-être pas à l'aise d'avoir des partenaires plus jeunes parce qu'elles avaient peur elles-mêmes d'être victimes, au fond, d'agisme, de discrimination à un moment donné. Alors que pour les femmes lesbiennes, il y avait peut-être un intérêt à avoir, au contraire, des partenaires qui seraient du même âge ou un petit peu plus jeunes. Donc là, c'était aussi quelque chose qui pouvait être différent. Et puis, bon, la question d'avoir quelqu'un qui a énergie, qui fait des activités, on n'est pas
loin.
C'est
ça, quelles sont leurs attentes, en fait? Elles cherchent un partenaire pour partager des bons moments, des activités, des voyages. Notamment dans les critères, vous disiez que du coup vous étiez basé sur le capital érotique selon Hakim, mais que notamment la part de la sexualité, donc les compétences sexuelles, l'imaginaire érotique ou la capacité à satisfaire sexuellement ses partenaires était peut-être absent plutôt des critères féminins visiblement.
Oui, c'était le seul finalement. Il y avait 6 critères chez Hakim, puis ils sont à peu près tout ce que j'ai nommé, sauf celui qu'il y avait en plus dans la théorie du capital érotique, enfin ce concept-là, c'était tout ce qui était autour de la sexualité. Alors après, je ne sais pas si c'est aussi le fait de ne pas
être... De la pudeur.
De la pudeur. Je veux dire, à mon avis, il est tout à fait probable que ce soit quelque chose qui soit important aussi, mais elles ne vont pas forcément le nommer. À un certain âge, c'est vrai qu'il y a peut-être une certaine retenue liée à l'éducation que les femmes peuvent avoir reçue. En même temps, c'est quelque chose qui est considéré comme important aussi. Puis je m'en rends compte avec ma recherche actuelle aussi.
Je suis sexologue en tout cas, et je ne sais pas si c'est le cas pour mes collègues et auditeurs qui vont nous écouter, mais moi, il est vrai que je reçois des personnes âgées seniors, oui, mais hommes la plupart du temps. Et j'ai très peu de femmes qui viennent me consulter pour de la sexologie. Ou alors, elles viennent accompagnées du conjoint. Et dans ces cas-là, c'est une demande conjointe du couple. Mais c'est vrai que des femmes qui font la démarche de venir me consulter en sexologie, parmi nos aînés, je n'en vois pas beaucoup non plus. Donc, est-ce que effectivement c'est de la pudeur ou un désintérêt?
Je pense pas que ce soit... je pense que c'est pas la même chose. Dans le sens... rentrer dans des éléments plus intimes avec une chercheure dans le cadre d'une recherche, c'est pas la même chose que d'aller consulter, à mon sens. Même si je suis pas clinicienne pour ma part, mais moi j'y vois plutôt la question des normes sexuelles, c'est-à-dire un petit peu des normes sexuelles genrées où on ne s'attend pas à ce que des femmes soient proactives au niveau de la sexualité. On ne s'attend pas à ce qu'elles aient un intérêt pour la sexualité, où elles sont supposées être passives, être un objet de désir et non pas être un sujet actif de désir qui prend pleinement en main sa sexualité. D'autant plus chez des femmes âgées qui ont peut-être une éducation sexuelle plus conservatrice. C'est sûr que c'est différent, je pense, de la génération beaucoup plus jeune, là, mais je suis pas du tout surprise en fait que de ce que vous dites. Puis je vois dans la nouvelle recherche que je mène, Donc ça se passait en groupe. C'était un groupe fermé qui se poursuivait sur 5-6 rencontres, et quelque chose qui est ressorti dans les deux groupes. Donc un groupe était constitué de femmes aînées lesbiennes, puis un autre groupe des femmes aînées hétérosexuelles. Dans mes deux groupes, ce qui ressortait beaucoup, c'est à quel point elles ont apprécié de participer à ce groupe parce que ça venait briser le tabou et le silence. C'est-à-dire qu'elles ont pas, elles rapportaient toutes à quel point elles n'avaient pas d'espace pour discuter, pour échanger, pour partager sur la sexualité, que c'est quelque chose dont elles ne parlaient pas. Et ça leur a fait un bien fou d'avoir la possibilité de s'exprimer à ce sujet, de partager leur vécu. Et il y avait un vrai besoin, un criant, là, d'avoir du soutien. Parce qu'elles sont pas à l'aise au fond. Enfin, on leur a pas enseigné qu'elles avaient le droit de discuter de ça. Je veux dire, c'est des discussions, à mon sens, avec ma lunette un peu plus sociologique, ça fait partie de la masculinité que parler de sa virilité, de ses conquêtes sexuelles, etc. Les femmes, parler de sexualité, c'est quelque chose qui est mal perçu parce qu'il y a tout le stigmate associé aux femmes qui seraient trop axées sur la sexualité. Donc, c'est plus délicat, puis à nouveau, encore plus pour une génération plus âgée.
D'accord. Effectivement, hein, on ne regarde que par nos biais aussi. Hein. Donc, moi, mes biais de thérapeute, j'ai l'écho des hommes que je reçois, hein, qui sont parfois encore mariés avec des épouses qui n'ont plus ou qui ne veulent plus de sexualité, en tout cas ce qu'elles disent à leur mari. Et je ne vois pas les femmes qui vont bien parce que certains ont la chance d'avoir certaines maîtresses de leurs âges aussi qui sont très demandeuses ou en tout cas très complaisantes et qu'elles ne consultent pas parce qu'elles vont justement bien. Donc on a aussi les deux extrêmes peut-être de celles qui ne se présentent pas. Donc mais voilà. C'était le fait que ça soit absent, cette mention du capital érotique, notamment la sexualité, dans votre recherche, qui m'a fait poser cette question-là.
Ben oui, tout à fait. Tout à fait. C'est moi aussi, ça m'a interpellée, effectivement.
Et il y a la recherche, du coup, que vous avez faite sur les hommes. Hein, donc, vous êtes centré exclusivement sur l'intimité et la sexualité, mais vous aviez aussi la recherche conjointe avec les troubles érectiles et la saxopharmacologie. Du coup, est-ce que les hommes qui sont rentrés dans l'étude étaient quand même plus spécifiquement avec des tendances à avoir des troubles érectiles ou pas forcément du coup?
Alors en fait, moi, mon critère de recrutement, c'était qu'ils utilisaient au moins une fois un médicament pour favoriser l'érection. Et en fin de compte, ce qui ressortait de la recherche pour le versant utilisation des produits sexopharmaceutiques, ce qui ressortait davantage, c'est que chez les gays, il y avait une tendance à utiliser ces médicaments pour un plaisir un peu récréatif ou exploratoire. Donc, c'était pas nécessairement parce qu'ils avaient des troubles érectiles. Ça pouvait être, au contraire, pour augmenter leur capacité érectile, avoir des érections beaucoup plus longtemps. Donc, c'est quelque chose, comme je disais, un peu de récréation.
Plus facilement lorsqu'ils fréquentent, vous disiez, certains lieux dédiés. Donc, effectivement, il faut que ça puisse, pour que la machine se remette en route plus rapidement, par exemple.
Oui, ou vraiment que ça dure très, très, très longtemps, plus que la normale. C'est ça, mais... puis après il y avait le profil de ceux qui soit hétérosexuels soit gays avaient recours à ces produits parce que justement ils avaient des troubles érectiles effectivement. C'est ça. Donc c'était un peu le critère, mais c'est pour dire que du coup c'était assez variable dans la population que j'ai eue puisque tout le monde n'était pas concerné par les troubles érectiles.
J'ai noté que vous parler de pratiques libérales plus marginales, notamment pour les milieux gays, en l'occurrence, tels que le BDSM ou la fréquentation de lieux dédiés, donc des saunas ou des clubs libertins, j'imagine. Vous les dites plus inclusifs et peut-être moins dans l'agisme, justement.
Alors écoutez, c'est sûr que moi, je me base sur un faible échantillon, mais c'est quand même quelque chose qui est documenté ailleurs. Mais à nouveau, là aussi, le ailleurs reste un un très très petit nombre d'études hein, sur ces questions-là. En tout cas, quand on inclut la question du vieillissement. Mais effectivement, ça, il semblerait que les milieux ici qu'on nomme milieux cuir ou BDSM sont apparemment vont au contraire valoriser les hommes gays, enfin les hommes plus âgés finalement. J'imagine que c'est lié au rôle qu'ils jouent en fait dans ce contexte-là. Après, honnêtement, je suis vraiment pas une experte de cette question-là, donc je m'aventurerai pas trop, mais il semblait, parce que dans la mesure où dans la communauté gay, ou dans les communautés gays en général, il y a vraiment une tendance prédominante à l'âgisme. En fait, chez les hommes gays, je pense que on est vieux à 30 ans, quasiment, donc à 60, on n'imagine même pas. Ça commence très 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 tôt pour être étiqueté comme étant vieux. Et donc, ça amène beaucoup d'expériences d'exclusion sexuelle, de difficultés à trouver des partenaires. Moi, j'ai vu comment dans cette recherche, notamment, la nécessité parfois d'être obligé de payer des partenaires, d'avoir un service sexuel rémunéré pour pouvoir avoir une vie sexuelle. Donc, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'agisme, beaucoup d'exclusion sexuelle liée à l'âge et au vieillissement. En général, dans le milieu gay. Donc, je pense que là, c'est quelque chose qui est apprécié, évidemment, quand c'est pas le cas, puis qui était rapporté par mes participants, mais c'était pas l'objectif de mon étude d'explorer en profondeur cette question-là, de la dynamique de ces milieux-là, donc je pourrais pas vous en parler de façon plus approfondie, par contre.
Je comprends, mais par contre, c'était intéressant de voir qu'à cet endroit-là, justement, l'âge n'était pas un défaut, mais au contraire, apprécié et recherché. Et je voulais savoir si éventuellement, dans ce qui avait été dit par les personnes hétérosexuelles, comment elles trouvaient un endroit où leur âge était aussi apprécié et recherché.
Pour les hommes hétérosexuels ? Parce que les hommes hétérosexuels, ils n'ont pas ce problème. Les hommes hétérosexuels, c'est eux qui excluent les femmes âgées. D'accord. Mais les hommes hétérosexuels ne vivent pas d'âgisme, bien au contraire. Dans le sens où...
C'est intéressant, ça.
Ben oui, voilà. Non, c'est ceux qui sont les plus privilégiés, honnêtement, parce que eux vont trouver des partenaires plus jeunes, qui sont donc prêtes à être avec des hommes plus âgés qu'elles, et donc ils ne vivent pas d'agisme. Et puis c'est plutôt eux qui vont chercher, justement, qui ne vont pas vouloir de partenaires de leur âge, en général. Enfin, moi, dans ce que j'ai pu lire, et puis de ce que j'ai pu entendre aussi, dans mes propres recherches. Donc ils sont pas confrontés à ce phénomène, ils vivent pas ils vivent pas ce problème-là, les hommes âgés hétérosexuels, de leur côté, ça va
donc
bien.
C'est plutôt les femmes, finalement.
C'est les femmes, oui, tout à fait. Je dirais que le défi des hommes hétérosexuels, c'est un agisme intériorisé. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à accepter eux-mêmes leur vieillissement et l'impact de leur vieillissement sur leur masculinité et leur capacité érectile, puisqu'ils ont tendance à quasiment considérer que c'est synonyme capacité érectile égale masculinité, ce qui, de façon intéressante, n'était pas le cas chez mes participants gays, pour qui il n'y avait pas, c'était pas du tout synonyme, leur masculinité, elle s'exprimait ailleurs, d'une autre façon, elle n'était pas du tout liée aux capacités érectiles, ou en tout cas, pas seulement. C'était vraiment pour les hommes hétéros que ça portait atteinte à leur masculinité et que c'était difficile à vivre, finalement, ces troubles érectiles liés au vieillissement, en tout cas.
Du coup, finalement, c'est les femmes qui souffrent d'agisme, les femmes hétérosexuelles ?
Mais il semblerait que oui. C'est sûr que c'est quelque chose qui revient dans tous les discours. Là, dans la recherche que je mène actuellement, c'est un problème quand même important là, de trouver des partenaires. La difficulté pour celles qui ne sont pas en couple, elles sont nombreuses à se plaindre de la difficulté à trouver des nouveaux partenaires. Mais même chez les femmes aînées lesbiennes, c'est difficile de trouver de nouvelles partenaires. Moi, mon impression, c'est vraiment de façon globale, il y a vraiment un croisement de l'agisme et du sexisme qui fait que les femmes âgées en général sont exclues finalement de des rapports de séduction. Elles sont vraiment mises de côté, mises à l'écart. Puis pour diverses raisons, la question de l'apparence joue. Mais pas seulement, je pense. En tout cas, c'est
Oui, il y
compliqué.
avait les critères de santé, vous disiez, qui étaient assez importants quand même.
Les critères de santé. Après, moi, je suis au début. Là, ça, c'était dans l'ancienne ma première recherche, j'avais fait autour auprès des familles lesbiennes et hétéros. Celle que je fais en ce moment, il y a quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute la question de l'invisibilité, du fait en fait que les femmes et les lesbiennes n'ont pas de lieu pour socialiser. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des nouveaux modes de rencontre, beaucoup en ligne, internet, applications, tout ça, et les femmes et les lesbiennes sont moins à l'aise avec ce type
Parce que
de
les
monde.
bars sont plutôt centrés gays, du coup, ils sont pas gays et lesbiens.
Ben, c'est que les bars sont, d'abord, il y en a moins. Ah oui, alors d'abord,
D'accord.
oui, ça c'est plus séparé. D'un côté, pour les hommes gays, et puis de l'autre côté, plutôt pour les femmes lesbiennes. Puis, du coup, pour les femmes lesbiennes, ben, il n'y en a pas énormément, et quand il y en a, ben, c'est pour les plus jeunes. Donc, il y a vraiment très peu de lieux qui sont dédiés aux femmes lesbiennes vieillissantes et aînées. Alors, elles se retrouvent un peu à pas pouvoir faire de nouvelles rencontres. Puis, comme c'est un bassin finalement de partenaires potentiels assez restreint d'emblée, donc ça va être dans leur
Cercle.
réseau, dans leur cercle amical, mais là aussi, au fond, c'est toujours les mêmes personnes. Donc, difficile de trouver des nouvelles partenaires, c'est un vrai défi. C'est vraiment quelque chose qui a développé, en fait.
Vous parliez tout à l'heure que les personnes hétéros, l'abandon du coït pouvait être assez difficile pour eux. Ça pouvait être
Pour
une
les femmes.
acceptation difficile. Comment on pourrait les aider?
C'est une question vraiment complexe et basse. Donc là, c'est par quel bout le prendre? Je pense que c'est lié à ce que moi j'appellerais dans mon jargon des scripts sexuels culturels. Donc c'est vraiment des normes sociales en lien avec ce qui est valorisé comme pratique sexuelle. Je pense que pour cette génération plus âgée, en tout cas, j'avoue que je sais pas ce qu'il en est des plus jeunes, mais pour les plus âgés, il y a vraiment cette idéalisation du coït parce que c'était aussi considéré comme peut-être le façon la façon de au fond de faire des enfants. Donc
Puis vous l'avez
les
dit, en plus c'est leur masculinité, hein, beaucoup plus peut-être que les personnes gays.
Oui, pour les hommes, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cet enjeu-là de la masculinité. Donc c'est au fond, c'est les déprogrammer pour leur dire que la sexualité, ça peut être autre chose que le coït. C'est peut-être les amener à explorer plus la sensualité. Je veux dire, quand on réfléchit, par exemple, juste au vocabulaire, la notion de préliminaire, juste ce terme en soi crée une hiérarchie entre ce qui est considéré comme une vraie pratique sexuelle et ce qui est juste une préparation à la vraie pratique sexuelle, au vrai acte sexuel. Juste là, il y a quelque chose à déconstruire. Je veux dire, pourquoi il y a une hiérarchisation entre certaines pratiques? Il y en a qui seraient mieux que d'autres, qui seraient plus importantes, plus centrales que d'autres. C'est vraiment tout un réapprentissage à faire, je pense. Et puis, montrer aussi C'est ça, valoriser l'érotisme, la sensualité, la tendresse et montrer que la connexion, c'est quelque chose de central, puis peut-être apprivoiser d'autres parties du corps, aussi. Mais donc, il y a une déconstruction aussi, effectivement, la question de la masculinité, de cette association à la virilité, à l'érection, à la performance sexuelle. Puis moi, ce que je remarquais aussi, c'est que, au fond, il y avait des hommes qui me racontaient comment pour eux c'était difficile d'accepter qu'ils avaient plus les mêmes capacités érectiles, puis qu'ils étaient préoccupés que leur partenaire, leur femme, n'apprécie plus cette relation. Puis au fond, les femmes leur disaient toujours, mais moi, ça me convient très bien comme ça. Donc des fois aussi, c'est l'idée qu'ils s'en font eux-mêmes, mais au fond, peut-être que leur partenaire, femme serait ravie d'explorer autre chose que le coït. Donc je pense que c'est un petit peu d'éducation, au fond, à la sexualité, à d'autres pratiques.
Et
Je pense
pourtant, dans votre recherche, vous dites bien qu'ils y vont, en fait, d'eux-mêmes, vers plus de tendresse, plus de connexion à l'autre, plus de moments de sensualité, d'érotisme,
ils
mais
y
que
vont,
ça ne
mais il y
vient
en a
pas
qui vont à
combler cette
contre-cœur.
absence.
Mais c'est qu'il y en a qui y vont à contre-cœur. Ils y vont, ils se résignent, mais ils y vont pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui En fait, ceux qui avaient déjà des pratiques diversifiées avant le vieillissement, avant les troubles érectiles, c'est beaucoup plus facile parce que pour eux, ça, ils ont toujours eu un répertoire très large de pratiques. Donc, ils continuent finalement à être dans ces pratiques diverses. Et puis, par contre, ceux pour qui c'était vraiment centré sur le quid, c'est pour eux qu'il y a vraiment un deuil. Et c'est ça, et que c'est difficile à accepter. Donc, il y en a qui vont s'y résoudre, mais ils ont l'impression qu'ils n'ont pas une vraie sexualité. Donc, la tendresse... ben oui, tout le monde se dirige vers plus de tendresse, de sensualité, mais le sens qui est donné à ce plus de tendresse et sensualité peut être très différent d'un homme à l'autre, en fonction de son passé, de son parcours et des pratiques qu'il avait avant le vieillissement, avant les troubles érectiles.
Donc finalement, pour les personnes aînées, l'objectif c'est de les accompagner vers ça plus de douceur, surtout qu'il disait quand même qu'il y avait un sens un peu plus aiguisé peut-être sur le toucher que quand ils étaient jeunes, ils y étaient plus sensibles.
Mais il y avait, après on ne peut pas généraliser, mais il y a eu un ou deux participants qui ont nommé ça. Donc peut-être effectivement qu'il y a des nouvelles zones érogènes à découvrir. Peut-être que c'est juste qu'elles n'ont pas été explorées.
Puis
aussi.
La peau s'affine, alors peut-être aussi plus de sensibilité avec...
C'est possible. Ce serait quelque chose à explorer. C'est vraiment intéressant. C'est une bonne question à se poser.
Et donc, peut-être que notre objectif en tant que sexologue, alors, c'est plutôt d'accompagner la jeune génération. De toute façon, il y a un mouvement qui va de plus en plus vers ça pour changer les scripts vers plus de liberté, vers moins de coït, pour que justement les futurs aînés soient peut-être plus dans une acceptation, quelque chose comme ça, à ce moment-là.
Mais oui, tout à fait. Je pense, moi, c'est ce qui ressortait de ma recherche. C'est à quel point ceux qui avaient eu dans leur jeunesse des pratiques plus variées et qui n'étaient pas nécessairement centrées sur le coït étaient beaucoup plus épanouies dans leur sexualité en vieillissant. Donc, tout à fait, je pense que plus on développe ça chez les plus jeunes, plus il y a des chances que ça amène une sexualité beaucoup plus heureuse et en étant plus âgée. Je suis tout à fait d'accord.
Alors, il y a de plus en plus de communication dans ce sens. C'est vrai que maintenant, on parle vraiment de ce que vous disiez tout à l'heure. Les préliminaires, d'accord, c'est avant quoi, en fait? Parce que, en fait, pourquoi il y aurait forcément un après à ça? Pourquoi il faudrait forcément la pénétration? Pourquoi? Donc, il y a de plus en plus ce questionnement-là, quand même. Mais effectivement, ça peut être notre rôle aussi d'appuyer beaucoup plus quand on voit les hommes jeunes, disons les quarantenaires qui arrivent avec leur premier trouble érectile et qui paniquent, de les rassurer et de leur dire oui, mais la sexualité, ce n'est pas que ça.
Exactement. C'est vraiment un changement sociétal en fait. Donc c'est oui, moi j'encourage.
Mais là, vous avez marqué une grosse distinction justement entre les pratiques hétéro et les pratiques homo, où pour eux, ils comprennent assez vite que ce n'est pas que la pénétration.
Oui. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment surprise dans cette recherche. On a tous des stéréotypes, j'en ai comme tout le monde, des préjugés. Puis j'étais vraiment surprise de voir à quel point la sexualité était bien plus ouverte que la pénétration. Il y en avait même qui n'avaient jamais eu de pratique autour de la pénétration.
Puis, oui, j'ai lu ça.
Ouais, c'était intéressant. Là.
C'était surprenant, effectivement, de savoir on est sur du sexe oral, sur des masturbations l'un l'autre, sur du frottement, enfin voilà, d'autres pratiques faut pas oublier qu'on peut jouer.
Après, il y a aussi les jouets sexuels. Moi, je me suis rendu compte que les jouets sexuels, c'est très, très présent chez la population aînée ici au Québec. Je ne sais pas ce qu'il y en a en France, mais c'est quelque chose qui est utilisé par les hommes, par les femmes. On n'a pas trop parlé des femmes, si je me permets de dévier un peu, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise à quel point la masturbation est une pratique extrêmement courante chez les femmes aînées, en tout cas celles auprès desquels...
Ah, mais c'était pas dans le bouquin, c'est pour ça qu'on n'en parle pas par les mots.
Non, parce que ça, c'est nouveau, tout nouveau résultat. Oui, non, c'est assez frappant. Alors, la masturbation en général, et puis il y en a beaucoup qui utilisent les jouets sexuels, en fait, qui vont les trouver sur Internet, parfois dans des sex shops, parfois même à la pharmacie, parce qu'ici, les pharmacies, c'est pas la même chose qu'en France. Pharmacie, on trouve vraiment de tout. des produits, toutes sortes de choses. On trouve même la nourriture. Dans la pharmacie, c'est un autre concept ici qu'en France. C'est un peu comme un mélange d'un supermarché et d'une pharmacie qui est au fond du supermarché.
Mais par contre, ils gardent tout ce qui est bon pour la santé uniquement, j'imagine.
Bah, y a des chips et des biscuits. Non. Voilà. Donc, même pas. Non, non, ça n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi ça s'appelle une pharmacie. Mais toujours est-il que, bah, par exemple, dans le photovoie, donc, comme je disais, on sait prendre des photos aux participantes. Puis, il y a une participante qui a pris des photos de jouets sexuels qu'elle avait trouvé, qu'elle les a prises dans sa pharmacie. Voilà. Puis, il y avait tout un rayon. Puis, elle trouvait, il y a eu toute une discussion au fait que maintenant, c'était quelque chose qui était plus accessible aussi. Donc, ça joue aussi, hein, l'accessibilité, parce que c'est sûr que si les personnes aînées sont mal à l'aise, elles au sex shop, qu'elles trouvent ça un peu honteux, tout ça, ben, soit Internet, soit dans un lieu comme ça où tout le monde va. C'est un petit peu comme à l'époque où les personnes commençaient à acheter des préservatifs, on n'était pas à l'aise. Bon, ben, c'est un petit peu la même chose pour les jouets sexuels. Puis moi, j'ai été fascinée de voir d'ailleurs comment même la participation à ce groupe, qui est un groupe de recherche, enfin, je dirais de groupe de discussion en lien avec une recherche, mais ça pourrait être quelque chose de thérapeutique aussi, a permis à certaines femmes de se libérer un peu de leur gêne.
De s'autoriser, en fait.
Ouais, et de s'autoriser. Il y en a qui ont commencé, qui ont acheté leur premier jouet sexuel, et voire même qui se sont autorisés à redémarrer une pratique de masturbation suite à cette recherche.
Grâce au groupe, en fait. Grâce au phénomène de parler en groupe ensemble, en fait. C'est ça.
Oui. C'est intéressant, hein. Moi, ça m'a surprise.
Et ce projet-là, du coup, Photo-Voix, il était en lien avec la thématique sexualité, conjugalité, enfin, amour, où vous aviez ces thèmes-là?
Alors, en fait, ce qui était original de cette recherche, c'est que le thème général, c'était la sexualité. Et on a demandé dans chaque groupe, la première rencontre, en fait, dans chacun des deux groupes, comme j'avais dit, il y avait un groupe hétéro, un groupe de femmes de la diversité sexuelle. On leur a demandé ensemble de choisir les thèmes sur lesquels elles voulaient prendre les photos. Donc, on a eu effectivement des thèmes. On a été beaucoup autour de la sexualité. Pas beaucoup en plein cœur de la sexualité, mais beaucoup autour. Donc, effectivement, la question des relations conjugales, célibat, conjugalité, recherche de partenaires, c'était présent. Les questions de rapport au corps vieillissant, c'était présent. Aussi, la question de plaisir solitaire, plaisir à deux, désir. En tout cas, c'est ça. Donc, il y a eu des différentes thématiques qui ont été... Puis aussi, bon, ça, c'est spécifique au Québec, mais dans les deux groupes, le poids un peu de l'éducation, de l'histoire, si on peut dire, ben, la religion, parce qu'ici, c'est quelque chose qui est spécifique. Mais voilà, donc elles ont parlé. Et puis après, bon, le groupe pour les...
Concernant et le poids de la religion, justement, dans leur construction sexuelle et dans leur épanouissement, c'est ça, particulièrement, ou sur d'autres aspects de leur vie?
Non. Dans le sens, elles ont un petit peu raconté leur jeunesse, c'est-à-dire l'éducation sexuelle, non pas qu'elles ont reçue, mais au fond qu'elles n'ont pas vraiment reçue. En revanche, elles ont reçu une éducation religieuse assez marquée, très culpabilisante par rapport à la sexualité, où au fond c'était péché, c'était très mal finalement, et elles ont pu l'intérioriser. Elles s'en sont libérées pour la plupart, mais je veux dire, il y a eu quand même quelques discours de femmes aînées, de participantes qui racontaient comment même encore aujourd'hui elles sentaient que ça pesait, qu'elles avaient peur, qu'elles étaient toutes seules dans leur chambre. Puis, enfin, il y en a une en particulier, puis elle avait peur que peut-être les morts, les personnes décédées de son entourage la jugent, et ça pouvait les limiter dans la pratique de la masturbation, par exemple, où il y avait une culpabilité par rapport à ça. Je commence à m'intéresser aux personnes aînées qui sont en contexte institutionnel, ou c'est-à-dire qu'en gros, qui sont en perte d'autonomie dans différents contextes. Donc là, j'ai une recherche que je suis en train de terminer sur la sexualité des personnes aînées en contexte de soins palliatifs. Donc là, c'est quelque chose dont on parle peu. Donc, c'est soins palliatifs au sens large, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont vraiment à la fin de vie, mais ça peut être aussi des personnes qui, par exemple, sont atteintes d'une maladie, un cancer incurable, et qui ont un pronostic de fin de vie, mais ça peut être pendant plusieurs années, mais où, au fond, il y a quand même elles sont en très mauvaise santé, puis c'est incurable. Donc, c'est cette population-là. Bon, ça a été extrêmement difficile hein, de recruter des participantes pour cette recherche, oui, justement à cause du tabou qui entoure la sexualité en lien avec la fin de vie. On associe la sexualité à la vie, alors c'est sûr que l'associer à la mort, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment envisageable dans nos sociétés.
On appelait ça la petite mort quand même, l'orgasme, hein, il y a encore
oui,
quelques
c'est
années.
Vrai.
Bon.
C'est vrai. Non, tout à fait, mais quand on parle de la vraie mort, c'est
Oui.
plus tabou.
Oui, c'est plus une potion de vie, effectivement, pour les gens.
C'est ça. Donc, ce qui ressortait, c'est qu'effectivement, pour plusieurs de ces personnes, ça a amené une difficulté à poursuivre une vie sexuelle, en particulier une sexualité à deux, mais aussi seule, en lien notamment avec la maladie ou la fin de vie, avec la priorisation peut-être, en ayant d'autres priorités, comme pour les personnes qui sont vraiment à la toute fin, comme, je sais pas moi, régler
profiter
les
de
questions
ses proches,
proches, ou alors tout simplement ne plus avoir aucune énergie pour ça. Mais ce qui ressortait aussi, c'est que dans certains cas, en fait, pour la plupart, malgré tout, malgré ces limitations, c'est quelque chose qui pouvait rester important. La sexualité et l'intimité, au sens large.
Est-ce qu'on pouvait avoir la sexualité ou l'intimité comme bouclier face à la douleur, par exemple, ou à la souffrance? Est-ce que ça peut être représentatif, ça?
Alors, je pense que c'est quelque chose qui peut se produire. C'est pas quelque chose qui est ressorti de mes résultats, mais j'ai déjà lu ça dans certains articles d'autres études. Mais pour moi, ce qu'il y avait d'original dans ma recherche, c'est je dirais que les trois points au niveau de les trois profils, si on peut dire. Il y avait des personnes pour qui ça se transformait vraiment. Puis là, toute la question de l'intimité, justement, de la connexion à l'autre, du partage, juste partager un repas, partager un petit moment, ça devenait extrêmement précieux et ça avait autant de valeur que la sexualité. Ça, c'était pour certaines participantes. Mais il y avait aussi des participants, et peut-être d'ailleurs plus des hommes, mais pas seulement, pour qui la sexualité était encore importante, la sexualité vraiment génitale, où il y avait un désir de maintenir, et dans certains cas, ces personnes pouvaient maintenir une sexualité physique avec leur partenaire. Puis après, il y avait ceux qui souhaitaient le faire, mais pour qui ce n'était pas possible. Et là, en fait, ce qui est ressorti, puis peut-être plus pour les femmes, et j'ai trouvé ça tellement intéressant, c'était les personnes qui continuaient à vivre leur sexualité, mais j'ai envie de dire par la pensée. Que ce soit dans les fantasmes, dans les rêves érotiques, des vrais rêves, la nuit, ou juste imaginer, ou juste ressentir du désir pour quelqu'un. Donc, il y avait toute ces expressions de la sexualité, cette manifestation de la sexualité. Donc, la sexualité, c'est pas fini. C'est comme si on se rend compte que c'est jusqu'à la toute fin. Mais ça peut passer par les souvenirs aussi. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui peut explorer. Puis, ce serait peut-être quelque chose aussi à exploiter, entre guillemets, pour les cliniciens, par les cliniciens, de pas se limiter à juste une sexualité physique, mais de aussi valoriser tout ce qui est plus au niveau pensée, finalement. Ça peut rester encore quelque chose de très important. Donc, je pense que ça, c'est une voie.
Un des plaisirs de la vie qu'on veut garder et faire perdurer jusqu'au bout, en fait.
Oui, puis parce qu'il y a... Alors, tout à l'heure, on parlait des préjugés. C'est encore plus marqué hein, pour les personnes en fin de vie parce que ma recherche aussi, j'ai interviewé des professionnels qui travaillent en soins palliatifs. Puis, on voyait de façon claire à quel point ces professionnels avaient tendance à ne pas pouvoir imaginer que les personnes aînées, en particulier encore plus que les plus jeunes, pourraient encore avoir le moindre intérêt pour la sexualité en étant avec tous ces problèmes de santé. Mais c'est pas forcément le cas. Puis il y en a qui exprimaient, par exemple, qu'ils auraient pu apprécier d'avoir du soutien, peut-être même de la part de sexologues. Il y en a qui étaient peut-être pas à l'aise avec ça. À nouveau, c'est peut-être des questions générationnelles de tabous associés à la sexualité. Mais il y en a qui disaient, ça fait partie de la santé globale. Les soins palliatifs, on parle d'une approche holistique. Et malheureusement, l'approche holistique, les soins holistiques se limitent à ce qui, souvent à ce qui est psychologique, spirituel, social. Puis la sexualité est complètement oubliée. Donc ça, c'est quelque chose qui émerge un peu dans certaines recherches où on voit que ce serait important d'inclure la sexualité dans l'approche ou l'intimité, la sexualité dans l'approche holistique des soins palliatifs. Donc c'est une dimension
qui... Ça reste encore très tabou, hein, de toute façon, la sexualité. Hein,
mais c'est ça, c'est quelque chose à avoir en tête finalement, que ça peut rester une dimension très importante de la fin de vie, puis que voilà, on peut accompagner les personnes à ce niveau-là aussi dans leur fin de vie ou dans leurs derniers mois ou années de vie.
D'accord, merci. Et du coup, pour conclure l'épisode, quels sont les conseils que vous voudriez donner à tous ceux qui sont justement cliniciens de la santé sexuelle pour l'accompagnement des personnes aînées ou en cours de vieillissement? Quels sont les conseils que vous voulez nous donner, Anne?
Ben, le premier conseil, ce serait de ne pas avoir de préjugés. Pas avoir de préjugés aussi bien basés sur l'apparence d'une personne. Il y a beaucoup de préjugés à ne pas avoir. Dans le sens, ça peut être en termes... Des fois, il y a une hétéronormativité. Donc, il peut y avoir une présomption d'hétérosexualité. Ça, c'est un des préjugés qui peut être facile à avoir envers les personnes aînées. Pas avoir de préjugés sur l'ouverture que pourraient avoir les personnes aînées à parler de sexualité. Souvent, si on leur ouvre la porte, elles peuvent être vraiment intéressées à discuter de ce sujet-là. Mais aussi respecter, à l'inverse, celles qui peuvent être moins à l'aise à discuter de ce sujet en raison de l'éducation peut-être qu'elles ont reçue quand elles étaient plus jeunes. Aussi, je dirais, c'est important de se rendre compte qu'il y a une grande diversité dans le vécu sexuel des personnes aînées. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui elles vont souhaiter préserver une sexualité qui, au fond, correspond un peu aux normes de jeunesse. Puis je pense qu'on n'a pas, nous, à juger ce souhait de rester dans des pratiques qui ressemblent plus à celles des plus jeunes. Et que, pourquoi pas, si c'est leur souhait, l'important c'est de les soutenir dans ce qui leur fait du bien, dans leur désir. Par contre, il y en a peut-être qui vont aller plus se centrer sur, on parlait de connexion, de tendresse. Donc, c'est les accompagner là où elles sont et là où elles ont envie d'aller, sans présumer d'emblée de ce que ça pourrait être une sexualité à un âge avancé. Donc, vraiment, aller explorer avec la personne qu'est-ce qui est possible. Tenir compte, évidemment, peut-être de ses limitations physiques, mais c'est pas pour ça que l'érotisme n'est pas possible, c'est pas pour ça que la créativité n'est pas possible. Il y a beaucoup de possibilités, donc je pense que c'est à nouveau sensibiliser peut-être justement la population aînée au fait que il y a toutes sortes de façons de vivre sa sexualité et d'être épanouie sexuellement, puis que il y a pas une seule façon finalement de vivre sa sexualité en étant plus âgé. Puis c'est aussi être conscient que malgré tout, mais évidemment quand on est clinicien on l'est, mais qu'il y a le poids du passé aussi. Donc il y a des personnes qui vont être capables de s'en dégager, mais il y en a peut-être pour qui ça perdure là, au fil du parcours de vie. Puis c'est important de respecter aussi parfois les... Moi, par exemple, dans la recherche que j'ai faite, j'ai été surprise aussi de voir le nombre de personnes et de femmes aînées qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur jeunesse. Il y en a vraiment plusieurs qui, au fond, ont dévoilé cette expérience-là au cours des groupes de discussion. Elles n'en avaient jamais parlé auparavant. Oui. Donc, je pense qu'il y a aussi, ça aussi, c'est un sujet qui est très, très tabou pour la population âgée. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais la question des violences sexuelles, c'est quelque chose qui concerne aussi la population aînée, que ce soit en raison de leur passé, mais ça peut être aussi, même en étant plus âgé, je veux dire, actuellement. Donc, ça aussi, c'est une dimension qu'on aborde peu. Mais je pense qu'il faut être conscient que ce sont des enjeux qui peuvent aussi toucher les personnes âgées. Donc, c'est un sujet délicat, mais c'est important de l'avoir en tête aussi. Puis après, toute la question des ITSS, il y a souvent un manque d'informations. Hein, les personnes âgées sont jamais visées ou rarement visées par les campagnes de sensibilisation par rapport au risque d'ITSS, à la aux protections, tout ça. Donc c'est important aussi de qu'elles sachent.
Oui, parce que comme vous le disiez, il n'y a plus la procréation, donc en fait déjà la part contraception est plus prise en compte, mais effectivement il y a toujours la part protection à leur ramener à l'esprit peut-être.
fait, parce qu'elles ont souvent l'impression de ne pas être concernées, en particulier les personnes hétérosexuelles. Donc, elles ont l'impression que ça ne concerne justement que les hommes gays, par exemple. Mais c'est faux. Au sein de la population âgée, il y a une proportion très importante de personnes hétérosexuelles qui sont concernées par le VIH, par exemple, qui font partie, dans le sens où, parmi les personnes nouvellement infectées par le VIH au sein de la population âgée, il y a une proportion importante de ces personnes qui sont hétérosexuelles parce que justement elles ne se sentent pas concernées et elles n'ont peut-être pas été assez sensibilisées. Donc la prévention, c'est important aussi auprès des plus âgées.
Bon, on a le souci aussi des troubles érectiles. Donc mettre une capote sur des troubles érectiles, c'est jamais... On se retrouve effectivement avec un accompagnement peut-être un peu plus pointu, un peu plus fin avec les personnes âgées. Effectivement.
Tout à fait.
Écoutez, exactement. Merci Isabelle pour tous ces conseils. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Quand est-ce qu'on vous retrouve? Est-ce qu'on vous retrouve bientôt dans un nouveau livre? Est-ce que, je ne sais pas, quels sont vos projets?
Il va y avoir l'exposition en lien avec le projet Photovoix.
Donc Photovoix, ce sera sous forme d'exposition, ce ne sera pas publié. En fait,
non, mais si jamais il y en a qui sont curieux. Donc, c'est les photos des participantes et puis il y a toujours une citation qui accompagne. Donc, si ça vous intéresse, ça devrait être mis en ligne d'ici le début de l'automne, je pense.
Donc, sur l'UQAM, sur le site de l'UQAM ou ce sera ailleurs?
Normalement, sur le site du CREGES, le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale. Il va y avoir a priori une page web dédiée à ce projet de recherche sur le photovoix. Et donc, il y aura un lien vers l'exposition.
Donc, on le mettra au bas de notre podcast, alors.
Voilà.
Vous dites parfait. C'est pour l'automne, c'est ça?
Ça devrait être pour l'automne. Puis, c'est sûr qu'il y aura d'autres publications à venir sous forme d'articles, mais là, il n'y a rien de tout de suite là, de disponible. Voilà.
D'accord. Bon, bah, du coup, on vous retrouve à l'Université du Québec si on passe par là.
Exactement, tout à fait. Ou au Japon, parce que je m'en vais passer un an au Japon.
Wow.
Je m'en vais après-demain, c'est pour ça que je le mentionne. Voilà. Donc.
Et dans une démarche de recherche aussi, qu'est-ce que vous allez faire là-bas?
On va essayer justement de collaborer avec une sociologue japonaise qui s'intéresse, qui peut démarrer un projet sur le parcours, les parcours sexuels des baby boomers au Japon. Donc, on va essayer de faire un projet ensemble. Alors,
et d'aller affronter d'autres tabous, parce que je crois que là-bas, dans les populations, en tout cas asiatiques, il y a beaucoup plus de pudeur et de discrétion.
Mais il y a beaucoup plus de pudeur au Japon pour ce qui est de la population âgée. Par contre, il y a vraiment, c'est tout un univers sur la sexualité, tout ce qui est robotique et sexualité. Oui. Il y a beaucoup de choses très, très novatrices au Japon pour les personnes plus jeunes. Donc, oui, c'est tabou et en même temps, ça ne l'est pas. Il y a beaucoup de formes de... en tout cas, je pense que c'est tout un champ très, très intéressant à explorer.
On vous retrouve d'ici un an ou deux alors pour parler de la culture japonaise et de leur sexualité. Avec plaisir. Donc, on prend rendez-vous. Vous me recontactez quand vous revenez en Europe, en Occident.
Voilà, je fais beaucoup. Si jamais ça a été fructueux, ça va aider aussi beaucoup pour terminer mes projets canadiens. Mais peut-être, on peut se donner un rendez-vous. On verra.
Ça marche, avec grand plaisir en tout cas. Merci Isabelle pour tout
merci
ça.
Merci pour l'invitation.
Au revoir et à bientôt pour un prochain podcast.
Au revoir.